Nous avons entamé les 3 derniers mois, donc 3 derniers mois de l'année pratiquement. Voilà. Bon, on peut dire que cette année, ça a été une année charnière au point de vue politique, social et tout ce qui s'ensuit par derrière. Bon, nous verrons ça un peu plus tard. Alors, au programme, eh bien, qu'on s'appelle, nous allons voir la création de la Bourse du Travail qui a été à Paris. Qui avait été créé à Paris. Également, le droit des femmes, depuis 1945, étant donné que les femmes, généralement, ont toujours été les grandes oubliées donc, de l'histoire. C'est bien ça? Hein? C'est bien ça. D'accord. Et ensuite, création de l'organisation donc, du travail, ministère du Travail. Voilà. Allez, commençons par l'Organisation internationale du travail. L'histoire de l'OIT, International Labour Organization, et c'est parti. Alors, j'ai fait des recherches, j'espère que ces recherches-là sont exactes. Et comme je ne suis pas dedans, je peux pas trop savoir ce que... Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, l'histoire de l'OIT. Le centième anniversaire de l'OIT, célébré cette année, est une opportunité idéale pour revenir sur les nombreux événements décisifs qui ont jalonné l'histoire de l'organisation. L'OIT a joué un rôle au principaux carrefour de l'histoire récente. La Grande Dépression, la décolonisation, la création de Solidarność en Pologne, la victoire sur l'apartheid en Afrique du Sud, et oui, et aujourd'hui dans l'instauration d'un cadre éthique et productif pour une mondialisation équitable. L'OIT, fut créée en 1919, sous l'égide du traité de Versailles qui mettait fin à la Première Guerre mondiale, incarnant la conviction qu'une paix internationale et durable ne pouvait se bâtir. Voilà, donc c'était une petite... La constitution de l'OIT fut rédigée début 1919 par la commission du travail présidée par Samuel Gompers, directeur de la Fédération américaine du travail, AFL, aux États-Unis. Bon, elle était formée des représentants de 9 pays, Belgique, Cuba, États-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie. Les membres de la commission de la législation internationale du travail à la conférence de paix à Paris, Samuel Gompers est au premier rang, troisième à partir de la gauche. Bon, là, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas l'image. Enfin, il était là, quoi. Le processus a abouti à une organisation tripartite, la seule de son espèce, rassemblant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs dans ses organes exécutifs. À l'origine de la création de l'OIT se trouvent des considérations d'ordre sécuritaire, humanitaire, politique et économique surtout. Les fondateurs de l'OIT mesurent l'importance donc de la justice sociale pour assurer la paix alors que les travailleurs étaient exploités dans les nations industrielles de l'époque. À savoir que l'industrie a commencé à avoir le jour au milieu du 19e siècle. Avec la prise de conscience de l'interdépendance économique du monde, est apparue la nécessité de coopérer pour offrir des conditions de travail similaires au travail des pays, en l'occurrence, pour le même marché. Bon, illustrant ces idées, le préambule de la Constitution affirme attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Ça, c'est vrai. Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère, les privations, ce qui engendre un tel mécontentement. Que la paix et l'harmonie universelle soient mises en danger et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions-là. Attendu aussi que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. Les domaines d'amélioration listés dans le préambule sont toujours d'actualité, notamment la réglementation de la durée du travail et du recrutement de main-d'œuvre, la prévention du chômage et la garantie d'un salaire assurant un niveau de vie convenable, la protection sociale donc des travailleurs, des enfants, des personnes âgées, ne les oublions pas, et des femmes. La préambule reconnaît aussi un certain nombre de principes fondamentaux, par exemple l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et la liberté syndicale, bien sûr, pour ne pas l'oublier, et rappelle entre autres choses l'importance de l'enseignement technique et professionnelle. Les premières années, l'OIT a aménagé en Genève en 1920, avec à sa tête le français Albert Thomas, comme premier directeur. Physiquement, je ne l'ai pas connu, celui-là. Voilà, je n'étais pas encore là. 9 conventions internationales du travail et 10 recommandations furent adoptées en moins de 2 ans. Ces normes couvraient la durée du travail, le chômage, la protection de la maternité, et oui, le travail de nuit des femmes, l'âge minimum et le travail de nuit des enfants. Et oui, cela a existé. Et cela, je ne dirais pas que ça ne s'est pas arrêté, mais en ce qui concerne le travail des enfants, donc dans certains pays, on n'est pas trop regardant, voyez-vous. En 1920, le sous-directeur Harold Butler et la direction du BIT, B-I-T, Albert Thomas profite d'un moment de répit devant le premier contingent du BIT. À Châtelaine-Prigny, ce bâtiment abrite aujourd'hui le siège du Comité international de la Croix-Rouge. Voilà, Comité international de la Croix-Rouge, où dans ma jeunesse, j'en faisais partie. Mais ça, c'est notre histoire. Une commission d'experts a été créée en 1926 pour vérifier l'application des normes de l'OIT. La commission, qui existe toujours, est composée de juristes indépendants, chargé d'examiner les rapports des gouvernements et de présenter chaque année à la conférence leur propre rapport sur l'application des conventions et des recommandations. Le Britannique Harold Butler, qui a succédé donc à Albert Thomas, que je n'ai pas connu non plus, au poste de directeur en 1932, fut vu très vite confronté à la Grande Dépression et au chômage massif qu'elle engendra, réalisant que la gestion des questions liées au travail exigeait aussi qu'une coopération internationale. Les États-Unis devinrent un État membre de l'OIT en 1934, tout en restant dehors de la Société des Nations. Des membres du personnel, toujours pareil, du BIT, dans un port au Portugal, s'embarquèrent sur ce navire vers les États-Unis pour s'en au Canada. Et il y a eu un Américain qui s'appelait John Wyndham, qui avait pris ses fonctions de directeur en 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale était imminente. Seconde Guerre mondiale qui a duré malheureusement pas loin de 5 ans. Il a temporairement déménagé de le siège de l'OIT à Montréal, au Canada, en 1940 pour des raisons de sécurité. Il a peut-être été menacé, on ne sait pas trop. Il y a eu aussi le Maurice Hals Université McGill où l'OIT avait installé son siège temporaire de 1940 à 1948. Alors, ce n'est pas une personne physique, hein, je vous le signale, ce n'est pas une personne physique. Il y a eu aussi l'Irlandais Edward Phelan qui avait participé à la rédaction de la Constitution de 1919, et joué un rôle éminent, une fois encore, pendant la conférence internationale du travail à Philadelphie, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec toutes les horreurs que cette guerre a apportées. 17 mai 1944. Elvarge J. Féline signe la déclaration de Philadelphie à la Maison Blanche en présence de gauche à droite du président Franklin Roosevelt, de Cordell Hull, secrétaire d'État américain, Walter Nass, président de la 26e session de la CIT, Francis Perkins, ministre du Travail des États-Unis et de Lindsay Rogers, sous-directeur général de l'OIT, Washington DC. Bon, ça c'est aux États-Unis. Les délégués des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 41 pays ont adopté la déclaration hors Philadelphie, qui fait annexer la constitution de l'OIT. La déclaration constitue toujours la charge des buts et objectifs de l'OIT. Elle énonce ses grands principes d'action. Voilà. Et après fin de la Seconde Guerre mondiale, ils affirment notamment que le travail n'est pas une marchandise, c'est vrai, le travail n'est pas une marchandise, et que tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, voilà, n'oublions pas, ont le droit de poursuivre leurs travaux, leurs progrès matériels et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, de la sécurité économique avec des chances égales pour tout le monde, aussi bien femmes, hommes, hommes, femmes et enfants aussi. Vers l'universel, en 1946, l'OIT devient une institution spécialisée du tout nouveau système donc des nations. Décembre 1946, signature de l'accord des nations unis au terme donc auquel l'OIT devint la première institution spécialisée donc des Nations Unies. Voilà. À gauche, différentes personnalités, directeur de général de l'OIT, et à droite, le secrétaire général des Nations Unies. Bon, pour ne pas le nommer. Voilà. Il y a eu aussi l'Américain David Morse, qui fut directeur général de 1948 à 1970, période pendant laquelle le nombre d'États membres a doublé, et l'organisation prit son caractère universel. Les pays industrialisés devinrent minoritaires par rapport aux pays en développement. Le budget fut multiplié par 5 et le nombre de fonctionnaires par 4. Toujours pareil, l'OIT a créé l'Institut international des études sociales basé donc à Genève en 1960 et le Centre international de formation à Turin en 1965. Turin, c'est en Italie. Voilà. L'organisation a remporté le prix Nobel de la paix pour son 50e anniversaire en 1969. Et sous le mandat d'un britannique qui s'appelait Wilfred Jenks, directeur général de 1970 à 1973, l'OIT continua d'œuvrer au développement des normes et des mécanismes permettant de contrôler leur application, en particulier la promotion de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Le 10 octobre 1969, le directeur général David A. Morse reçoit le prix Nobel de la paix. En 1969, au nom de l'OIT, Damien Longes, l'ONAS, président du comité Nobel du Parlement norvégien à la salle des fêtes de l'Université d'Oslo. Voilà, il y a eu quand même son successeur, Francis Blanchard, lui a développé la coopération technique de l'OIT avec les pays en développement. L'OIT a joué un rôle majeur dans l'émancipation de la Pologne en apportant son plein soutien à la légitimité du syndicat, celui de Warnock, en application de la Convention. Bon, c'est numéro 87 sur la liberté syndicale que la Pologne avait ratifiée en 1957. Juin 1981, et ça y est, on se rapproche, session de la CIT, Lech Walesa, président du syndicat polonais, Solid Warnock, représentant des travailleurs polonais, archive historique de l'OIT. Bon, le Belge Michel Anselme lui a succédé en 1989, prenant la direction de l'OIT à la fin de la guerre froide. Il a rappelé comme il était important de placer la justice sociale au cœur des politiques économiques et sociales internationales. Il a également orienté l'OIT vers la décentralisation de ses activités et de ses ressources. Loi de son siège de Genève. En 1999, le Chilien Juan Somavia devient directeur général. Il a souligné l'importance de faire du travail décent un objectif stratégique à l'échelle internationale et de promouvoir une mondialisation équitable. Il a aussi rappelé que le travail était un instrument de lutte contre la pauvreté et mis en exergue le rôle de l'OIT dans la réalisation des objectifs de développement du militaire, y compris la réduction de moitié de la pauvreté d'ici à 2015. Sous la direction de monsieur, c'est un personnage que j'avais entendu parler dans les archives, là, sous la direction de monsieur ou madame Somavia, je me souviens plus très bien, l'OIT a créé la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, qui a publié un important rapport en réponse aux besoins des peuples confrontés au changement, bon, sans précédent dans la société du fait de la mondialisation. En 2012, le Britannique Guy Ridley fut élu 10e directeur du général de l'OIT. Il a été réélu pour un mandat de 5 ans. En novembre 2016, Ridley a affirmé que l'avenir du travail n'était pas prédéterminé. Le travail décent pour tous est possible, mais les sociétés doivent le faire advenir. C'est précisément au nom de cet impératif que l'OIT a créé la Commission mondiale sur l'avenir du travail dans le cadre pour célébrer son centenaire en 2019. Voilà, c'était donc l'historique de l'OIT. Je vais demander à la régie, à la jeune fille qui est à la régie, de mettre un peu de musique, et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes. Ambition, come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them no, it's from creation. I told them no, it's from creation. Bam, bam, ayo, what a bam, 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 dilang, bam, 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 dilang, bam, bam, ay, what a bam, bam, ta what a bam. Trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition.
Winston 6. I not see right the Christmas lyrics. When you hear them, you sound like Christy Biscuit. You come in at the place and me say, well, well, slicky, bam, bam, ayo. Tawata, bam, 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 belong. Bam, 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 belong. Bam, bam, ayo. Tawata, bam, bam, ayo. Say what, bam, bam. That's how my demo say me walk on my shopping plan. I told them, no, no, me, you want business, woman. Sister Nancy, she a one in a 3 million. Sister Nancy, she a one in a 3 million. So bam, bam, say what, bam, 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 dilang, bam, 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 dilang, bam, bam, hey. Say go, Sister Nancy, make you go. I kill you, say fi go, Sister Nancy, make you go. I know it from me head straight down to my toes. I teach that down, Sister Nancy and the go. And some of them ask her, Sister Nancy, make you bad so. Long down the list, Sister Nancy, make you bad so. He bam bam, who what a bam bam. He bam bam dilang, bam bam. He bam bam dilang, bam bam. Who what a bam bam. Hey, tell me say what a bam bam. This woman, I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So bam.
Jingle. 88 moins 4. Alors, bon. Mesdames et messieurs, sur Radio Galère, le
88.4.
Soyez les bienvenus.
Yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. En el principio fue Luke y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro con sabor colombiano. Me está surtiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura no estamos jóvenes tampoco más.
Ça y es, la lumière olea. Merci. Bien. Après donc l'OIT, il est maintenant question de la bourse du travail à Paris. Alors la bourse du travail, eh bien, il y en a un peu de partout. Hein. Il y en a à Marseille, qui est Boulogne-Delec, Saint-Charles. Il y a aussi la bourse du travail à Paris, aussi des bourses de travail, pratiquement dans toutes les villes. Bon, celle qui nous intéresse, c'est la bourse du travail à Paris, quoi. Alors ceci, j'ai fait des recherches, c'est une ébauche que j'ai trouvée comme ça en cherchant, donc je vais essayer de vous regarder un peu comme on dit. La Bourse donc, du Travail de Paris est un établissement public, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, aussi bien aux grands que petits, tout le monde peut aller dans cet établissement. Hein. Établissement public administratif de la ville donc, de Paris. Bon, alors que c'est-tu pour les travailleurs, un foyer où ils peuvent trouver des lieux de réunion syndicales, des informations professionnelles. La bourse est composée d'un bâtiment principal dans le 10e arrondissement, donc dans la capitale. L'adresse, je ne l'ai pas. Voilà. La bourse centrale. Elle est située donc au numéro 3 du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement. L'idée de la construction de la bourse du travail a émergé la première fois en 1790, pardon. Elle s'est formalisée en 1843 par l'action de M. de Molinari, qui était à l'époque un économiste, mais c'est très loin, parce que 1843, il n'était pas... il y a un moment qu'il n'est plus là. Hein. Donc, pour organiser un marché du travail afin de rendre public le niveau des salaires, le projet est abandonné principalement parce qu'avec une telle publicité, aurait attiré à Paris des travailleurs de province. Hein. Voilà. Bon, le préfet de police, à l'époque, il s'appelle Louis Ducoux, en 1848, dépose en mairie un projet étatique de bourse des travailleurs. Cette bourse devait renseigner les travailleurs sur le prix de leur travail, leur embauchage, et permettre aux patrons de se renseigner sur les prix et les marchandises. Quoi. Bon, c'est là-bas où on se faisait des échanges. Quoi. Je donne, tu donnes, inversement. Elle est construite de 1888 à 1896 par un nommé Joseph-Antoine Bouvard. C'est pas Philippe Bouvard, hein, comprenons pas. 1840-1920. Alors architecte de la ville de Paris sur un terrain précédemment occupé par le Grand Café parisien, sa façade imposante de 5 étages aux pilastres corinthiens, bon, ça, les pilastres corinthiens, hein. Oui, bon, c'est comme ça. Pilastres corinthiens monumentaux, surmontés d'une horloge de style Renaissance, classique, son inauguration a eu lieu en mai 1982. Le terrain a coûté un tarif inimaginable. Et là, je n'ai pas de tarif à donner, mais cela a coûté très, 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 très cher, cette Bourse de Paris. Voilà. Bon, j'ai parlé de la Bourse de Paris. Je peux maintenant parler un peu de la Bourse, donc, de l'idée sujettie qui est située au boulevard Charles-Nedelec. C'est là où, à l'époque, où les patrons et les syndicats, les patrons, les syndicats et les salariés donc, se retrouvaient pour aller travailler donc, dans différents endroits de Marseille. Quoi. À l'époque, Marseille, c'était vraiment le centre du monde. Quoi. Tout le monde travaillait, tout le monde avait un travail. Et bon, c'était pas facile pour tout le monde, mais tout le monde pouvait au moins un peu travailler et faire bruit un peu la marmite, comme on dit. Voilà. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur la bourse de l'Union départementale CGT, eh bien, boulevard Charles-Nedelec, en bas de la gare Saint-Charles, en montant, un petit escalier, et hop, et un bâtiment ancien. Voilà. Bon, voilà. Ce bâtiment est ancien, il n'a pratiquement jamais été rénové, il est resté dans l'état. Voilà. Il y a eu un peu de rénovation par-ci, un peu de rénovation par-là, mais il y a beaucoup à faire dessus. Et comme c'est la mairie qui est propriétaire, et voilà. Donc ça traîne un peu pour avoir donc des revenus quoi, pour effectuer des travaux. 14h25, je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes. Merci la régie. Voilà. Coucou, ça va? Bien? Ah, c'est parfait. Bien. On va maintenant parler un peu des femmes. J'en ai une à ma droite. C'est une jeune fille qui est là, voilà. Coucou, je lui fais coucou. Ça va? Ça se passe bien? Parfait. Voilà. Donc, l'évolution des droits des femmes de 1946 à nos jours. Bon, l'évolution des femmes, effectivement, a commencé donc en 1946, oui, tout à fait. Mais on ne peut pas dire qu'avant, l'évolution des femmes avait été, je ne dis pas respectée, parce qu'il n'y avait pas les lois de maintenant. Mais maintenant, on peut, comment ça s'appelle, on peut tabler sur pas mal de choses. En fait, aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, autant de tous les peuples, la femme a toujours été, comme ça s'appelle, un objet de désir, ça a toujours été comme ça, puis voilà, et ça a duré des millénaires, et des siècles. Bon, en définitive, les femmes ont toujours pratiquement été soumises, donc, aux hommes, et c'est dit pour différentes raisons, enfin bref, voilà. Mais là, en 1946, ça a commencé à changer. Les droits des femmes ont été un enjeu majeur de l'évolution sociale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux progrès ont été accomplis en termes d'égalité et de genre, mais il reste encore du travail à faire. Cet article examine l'évolution des droits des femmes en France de 1946 à nos jours. Alors, 1946, c'est juste après la guerre. Voilà. C'est juste après la guerre. Et ces femmes, donc, dans la guerre, eh bien, beaucoup ont fait de la résistance, beaucoup ont résisté, qu'on s'appelle au nazisme, tout ça. Les hommes étant partis, donc, soit en Angleterre, soit dans divers endroits, enfin bref. Voilà. En définitive, toutes ces femmes-là se sont vues... obligés, qu'on s'appelle, de souvenir donc à leurs besoins. En 1946, la France adopte la constitution de la 4e République, qui pose les bases de l'égalité des sexes. Les femmes ont dorénavant le droit de voter, voilà, c'est bien, et d'éligibilité leur donnant une voix politique et leur permettant de participer activement à la vie démocratique du pays. Bon, les principaux mouvements féministes dans les années 60 et 70, les années 60 et 70 ont été marquées par un regain des mouvements féministes. En France, les femmes revendiquent leur droit à disposer donc de leur corps, c'est bien, et à obtenir l'égalité salariale, c'est bien aussi. Le mouvement de libération des femmes, MLF, fut l'un des mouvements les plus influents de cette époque, militant notamment pour la légalisation de l'avortement. Quels ont été les progrès réalisés dans les années 80 et 90? Dans les années 80, des lois sont adoptées pour protéger les femmes de la violence domestique. La France se dote également de dispositifs de protection sociale en faveur des mères célibataires et des femmes enceintes dans leur travail. Dans les années 1990, des mesures sont prises pour promouvoir l'égalité des chances entre les sexes et le monde du travail. Bon, quelles sont les avancées en matière des droits des femmes? Au début du XXIe siècle, de nouvelles lois sont adoptées pour lutter contre des discriminations basées sur le genre. La parité homme-femme est promue dans les sphères politiques et professionnelles. Des mesures sont également prises pour augmenter le taux d'emploi des femmes et favoriser leur accès à des postes à responsabilité. Quels sont les défis restants pour les droits des femmes? Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, de nombreux défis subsistent. Les inégalités salariales persistent, bien sûr, encore aujourd'hui, de même que les stéréotypes de genre. La lutte continue contre les violences faites aux femmes reste une priorité et nécessite une action concertée de la société et des institutions. Inégalités salariales, les femmes continuent de percevoir des salaires inférieurs à ceux des hommes, ça, c'est pas une nouveauté, pour un travail équivalent. Stéréotypes de genre, les stéréotypes traditionnels limitent encore le choix de carrière des femmes et renforcent les inégalités. Bon, les violences faites aux femmes, il y en a eu beaucoup, il y en a encore d'ailleurs. Les violences domestiques, les agressions sexuelles restent des problèmes majeurs nécessitant une action urgente. En conclusion, l'évolution des droits des femmes en France depuis 1946 a été marquée par de nombreux progrès. Cependant, il reste encore des défis à relever pour parvenir à une véritable égalité des genres. Il est essentiel de continuer à soutenir les mouvements féministes et de promouvoir des politiques qui favorisent l'égalité et le respect des droits des femmes. Voilà. C'était un petit rappel donc sur les droits des femmes dans notre pays. Je fais quand même un petit retour sur la guerre de 39-45. Les hommes étaient partis donc au combat, certains ont été prisonniers, certains sont morts, certains ont été déportés, enfin bref, cette guerre-là, c'était une horreur sans fin, quoi. Et Et tout n'a pas encore été découvert. Quoi. On en découvrira encore, croyez-moi. Et c'était les femmes qui s'occupaient donc de travailler donc dans les usines, dans les champs, tout ça. Voilà. Et ceci dit jusqu'à la fin donc de la guerre. Et en 1946, ça a commencé à changer. Voilà. Il est 14h33, je vais demander à la jeune fille qui est en régie. Merci. Et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes.
Darling, she said that was yours to receive. Oh, me Israelites, look, them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelites, after a storm there must be a calming. Put you in the palm, you sound your
sono svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. Thank you. se io muoio sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno ciao, oh bella, ciao, 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 e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fiore. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fiore.
Merci la régie. Elle est magnifique. Elle a des yeux terribles. Non mais c'est vrai. Hein. C'est pas vrai, si. Bon. Allez. Il est 14h40. Ça passe vite le temps, fille. Bien, bien, bien. Alors après, donc, pour continuer dans la continuité, comme on dit, Front populaire et antifascisme. Front populaire, antifascisme, voilà, c'est ça. De masse, bon, qu'à vaincre le fascisme. Bon, ce qui naît en février 1934, donc bien avant la guerre, n'est pas la cristallisation à une échelle de masse. D'un mouvement que je trouvais progressivement avant février 1934. Il n'existe pratiquement pas de mobilisation contre le fascisme, comme actuellement. Le fascisme est essentiellement composé dans les discours des partis de gauche. Voilà. Voilà, on va voir un peu ce qu'il en est exactement. Voilà. L'antifascisme comme riposte face à un danger. Ce qui naît en février 1934, je reprends un peu au début, n'est pas la cristallisation à une échelle de masse d'un mouvement construit progressivement. Avant février 1934, il n'existe pratiquement pas de mobilisation contre le fascisme. Le fascisme est essentiellement considéré dans les discours des partis de gauche comme un phénomène étranger, italien et depuis peu allemand. Ce n'est pourtant pas faute d'ennemis concrets. Les organisations d'extrême droite, plus ou moins ouvertement fascistes, essaiment avec des effectifs significatifs. Les ligues, Action française, Solidarité française, Croix de feu, Jeunesse patriotique, Franchisme, Chemise verte, ont chacune des dizaines de milliers de membres et comportent systématiquement des formations paramilitaires. Camelot du Roi Dispo, Ceinturie, les Jeunesse patriotiques ont... 10 000 membres en février 1934. La police considère que Solidarité française a 180 000 membres, sans doute survalués. Voilà. Donc, ce sont des groupes qui sont très mobiles et très dangereux. La F a au moins 60 000 membres, les Croix de Feu, 35 000. Elles sont fanatiquement nationalistes, anti-parlementaires, violemment anticommunistes, généralement antisémites. Il faut y ajouter deux organisations de masse qui entretiennent des liens organiques avec les ligues. L'Union nationale des combattants, UNC, qui a 90 000 membres de la fédération et contribuables, qui en a 70 000. Des événements vont être à l'origine du mouvement antifasciste. Il y a d'abord l'effet de l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, un an auparavant, et rapidement l'interdiction sans résistance des partis de gauche. puis du syndicat de rapport de police signale pour l'année 1933 l'affluence inhabituelle dans les milieux ouvriers des réunions publiques sur la situation en Allemagne et l'inquiétude qui s'y exprime chez les participants sur un danger similaire en France. Plus directement, il y a l'agitation des ligues provoquée par un nouveau scandale de corruption, l'affaire Stavinsky à l'époque. Durant tout le mois de janvier 1934, elle aboutit le 6 février à une manifestation appelée par les ligues. Mais aussi l'UNC, la Fédération des contribuables, place de la Concorde à Paris, vers le Parlement. Cette manifestation qui tourne à l'émeute a fait 18 morts. En lien avec l'Allemagne, cette manifestation apparaît alors comme une tentative de prendre le pouvoir. Il n'est plus possible de dire que le danger fasciste est ailleurs. Le mouvement qui naît est une riposte. À Lyon, alors que l'extrême droite manifeste tous les soirs, place Bellecour, de contre-manifestation de chasse le 7 février. Un mouvement défensif. L'impulsion de la riposte vient des organisations militantes et surtout des syndicats. Il y a corrélation très forte entre la taille des manifestations et l'implantation syndicale. On ne parle pas là d'organisation en plein boom, nourrie par un mouvement de lutte, bien au contraire. Le mouvement social est au plus bas. Le début des années 1930 est marqué par le très faible nombre de grèves lorsqu'il y en a. Elles sont longues et généralement défaites. Les organisations syndicales sont très affaiblies depuis les lourdes défaites de 1920. Puis la scission entre la CGT et la CGTU en 1921, les effectifs n'ont cessé de chuter. La gauche est profondément divisée, le Parti socialiste exclut toute alliance avec le Parti communiste et celui-ci ne cesse d'attaquer le PS comme social-fasciste. Ce n'est donc pas un mouvement social fort qui donne naissance à un mouvement antifasciste de masse. Ce n'est pas un développement de grèves revendicatives sur les questions économiques qui créent le terrain pour des grèves politiques. C'est au contraire la dynamique créée par le mouvement antifasciste qui va donner naissance à un retour de combativité sur le terrain social et politique, qui mènera notamment au développement des organisations syndicales, à la victoire du front électoral, à la victoire électorale pardon, du Front populaire en mai 1936, et à la vague de grève et d'occupation de juin 1936 également. L'antifascisme de masse qui naît en février 1934 est un mouvement défensif. Et bon, il n'est pas une lutte pour obtenir des acquis sans parler d'une lutte pour changer le système. Il y a une mobilisation pour faire barrage à un danger. Ce qui est évoqué, c'est la défense des libertés et de la République, cependant souvent caractérisée comme sociale pour les différencier du régime en vigueur. Cette nature défensive du mouvement explique qu'un mouvement de masse a pu émerger malgré un contexte préalable prolongé de faibles mobilisations. L'unité imposée aux directions, la caractéristique principale de ce mouvement, celle qui permet de le cristalliser comme mouvement de masse et qui développe une dynamique qui se prolongera sur les terrains social et politique. C'est l'unité non pas sur les contenus revendicatifs, mais sur l'action. Et dès le 6 février au soir, les fédérations syndicales, les fédérations de la Poste, le coin de gauche et le Parti socialiste appellent à la riposte. Le 7 février à 13h, la direction de la CGT, effrayée sans doute par une évolution allemande où son organisation sera détruite, appelle toute structure locale à organiser des manifestations. À fin d'après-midi, alors que le gouvernement démissionne pour laisser place à un gouvernement d'ordre national. Très marquée à droite, elle décide finalement de mot d'ordre de grève générale pour le 12 février. Mais dans les régions, les réseaux sociaux n'ont pas attendu dès le 8 février. Des manifestations improvisées éclatent dans moins de 30 villes, dont Nantes, Toulouse, Brest, Lorient, Lille, Bordeaux, Saint-Nazaire. Un cortège s'organise à la sortie du chantier pour aller manifester sous les fenêtres du directeur des chantiers, qui est le chef des camelots du roi, la ministre de l'Action française. Le 9 février, le Parti communiste appelle une manifestation à Paris où les affrontements avec la police font au moins 4 morts. Le 11 février, il y a 63 manifestations en région. Au niveau des directions, il n'y a aucune unité. Une réunion unitaire a lieu à la CGT le 7 février, au soir pour organiser la mobilisation du 12 février. Ni la CGTU, ni le Parti communiste n'y sont conviés. Le PC organise seul sa manifestation du 9 février. La CGTU et le Parti communiste ne décide de participer à la grève et aux manifestations du 12 que le 10 février. La peine n'est publiée que l'autre soir. Donc là, il y a eu un peu de flottement. Et pourtant, dès le 8 février, des initiatives unitaires s'imposent localement à Saint-Nazaire, prennent successivement la parole, les responsables de la CGT, de la CGTU, du Parti Socialiste, du Parti Communiste. Il en va de même à Périgueux, Valence, Nevers et ailleurs. La dynamique s'accentue encore pour les manifestations. Alors que le ralliement de la CGTU et du PC à la journée du 12 arrive au mieux trop tard, il y a au moins 60-61 manifestations organisées de manière unitaire. Le 12 février, c'est d'ailleurs là où le cadre unitaire s'est mis en place, que la corrélation entre la taille des manifestations et implantations syndicales est la plus forte à Paris. Les cortèges communistes et socialistes arrivent selon des trajets différents, fusionnent finalement sous la pression des manifestants au cri de « unité d'action ». En contradiction avec les expériences menées localement dans les comités, les directions mettront encore plusieurs mois à rompre avec la politique sectaire. Bon, quelques réflexions sur la dérive défensive de l'antifascisme. C'est cette nature défensive et limitée de l'antifascisme qui permet en 1934 de construire un mouvement de masse impliquant différents courants, divisés par ailleurs sur de nombreuses questions et d'impliquer bien au-delà de leur rang. Et l'unité crée la confiance qui dynamise, elle est déjà en soi un problème pour le fascisme qui prétend parler pour le peuple. Encore faut-il faire la différence entre le contenu politique défensif de cette lutte et la nature des moyens de la lutte. Une lutte défensive peut être menée en utilisant tout un répertoire d'actions dont certaines seront considérées comme radicales. La grève en est une, mais dès le 12 février, dans les mois qui suivent, les manifestations et contre-manifestations qui visent à interdire la rue aux fascistes se traduiront par différents affrontements. Dès le 12 février, si la manifestation parisienne massive se déroule sans incident, il y a des affrontements avec la police dans plusieurs villes. En banlieue parisienne, les différentes manifestations se traduiront par 4 morts à Mulhouse. La manifestation tourne à l'émeute quand les manifestants menacent de prendre la prison d'assaut, jusqu'à obtenir la libération de camarades arrêtés la veille. Par ailleurs, la confiance prise dans l'expérience de la force collective et des expériences et débats générés par le mouvement crée une dynamique qui transforme la nature elle-même. C'est ainsi qu'une riposte antifasciste, le mouvement avec la pression pour l'unité syndicale va nourrir le retour offensif de la conflictualité sociale et développer le processus qui mènera au Front populaire. Voilà. Donc, le fascisme, le fascisme, bien le fascisme, est tout simplement un opportun. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, comme ça s'appelle, en Italie, et pas seulement en Italie. Voilà. Il est 14h51, je vais dire à la régie de mettre un peu de musique. Merci la régie. Et après encore quelques minutes d'antenne. Voilà, 14h52. Bien. Un petit retour en arrière maintenant, en 2015. Les attentats de janvier 2015. L'attentat contre Charlie Hebdo en 2015 donc, est une attaque donc terroriste et islamiste perpétrée contre le journal satirique Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015 à Paris, jour de la sortie du numéro 1177 de l'hebdomadaire, c'est le premier et le plus meurtrier des trois attentats de janvier 2015 en France. Vers 11h30, des hommes armés pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal armé de fusils d'assaut. Ils assassinent 12 personnes, dont 8 membres de la direction. Les victimes de la tuerie dans le bâtiment sont Frédéric Boisseau, responsable des opérations de la société Sodexo, chargé de la maintenance du bâtiment, qui est la première personne à décéder. Les cinq dessinateurs Cabu, Chartres, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste Elsa Kaya, l'économiste Bernard Maris, le correcteur Moustapha Ourad, ces 8 personnes étant membres du journal, le policier Franck Brizolaro qui assure la protection de Chartres, et Michel Renaud, cofondateur du festival Rendez-vous du carnet de voyage, invité à assister à la conférence de la rédaction. Bon, un gardien de la paix, Ahmed Merabé, est tué sur le boulevard Richard Lenoir par l'un des deux terroristes au cours de la fuite. Le bilan final est de 12 personnes assassinées, dont 11 blessées, dont 4 grièvement. Les deux auteurs du massacre sont tués 2 jours plus tard au nom de Paris, à Dan Martin, à Angouël, par les membres de GIGN qui s'attaquaient aux fusils d'assaut en sortant de l'imprimerie où s'étaient retranchés. Bon, les assassins se réclamaient d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, hein, qui revendique ensuite officiellement l'attentat. Voilà. C'était un petit rappel donc sur Charlie Hebdo qui a fait beaucoup de morts malheureusement. Et nous vivons une époque où très très dur le risque donc d'attentat est toujours présent sur notre territoire. Voilà. Il est 14h55, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Je vous remercie de votre écoute, merci la régie, bibis, au revoir.